Dans quelques minutes, notre magazine hebdomadaire Sahel Plus.
Les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Ouverture à la haie du procès de Bosco Ntaganda, l'ancien chef de milice en République démocratique du Congo, est accusé de 18 crimes, mais il a plaidé non coupable. On écoute Idriss Fall.
Bosco Ntaganda, 41 ans, est accusé de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont des meurtres, pillages, attaques contre des civils, viols et esclavage sexuel. Il est le premier accusé en droit pénal international à répondre de viols et d'esclavage sexuel. Parlant en Kinyarwanda, sa langue natale, il a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui au cours du procès qui va durer des années. Plus de 70 témoins seront cités à la barre. Bosco Ntaganda n'est poursuivi que pour les violences en Ituri en 2002 et 2003, mais il a été de toutes les guerres qui ont déchiré la région, du génocide au Rwanda à la dernière rébellion du M23 en RDC. Réputé avoir la gâchette facile, il a été surnommé le Terminator. Promu général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012, Ntaganda était recherché par la Cour pénale internationale. Il s'est rendu lui-même en mars 2013 à l'ambassade américaine de Kigali au Rwanda pour demander son transfert à la CPI.
Le chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, Martin Kobler, quittera ses fonctions le 31 octobre. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les Nations Unies à Kinshasa. En Centrafrique, le projet de constitution adopté dimanche par le Parlement de transition sera en principe soumis le 4 octobre prochain à un référendum. Mais pour sa part, le président du CNT, le Conseil national de transition, émet des doutes quant au respect du chronogramme électoral initialement élaboré par l'ANE, l'Autorité nationale des élections. On écoute Alexandre Ferdinand Guendé.
La représentation nationale avait émis quelques inquiétudes au programme annoncé par l'Autorité nationale des élections en commun accord avec le pouvoir exécutif. Et à l'époque, nous avons émis des inquiétudes en précisant que les dates avancées par l'Autorité nationale des élections étaient trop serrées et que c'était surréaliste et il fallait étudier étape par étape avant de sortir un programme en tenant compte des difficultés réelles du pays. Mais j'avais pas été compris et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. On n'a pas terminé l'enregistrement des électeurs à l'intérieur du pays. Il y a des problèmes de sécurité dans certaines régions. Donc le pays, l'Autorité nationale des élections ne dispose pas de fichiers électoraux. Donc c'est là que nous disons que ces dates sont surréalistes et qu'il fallait réfléchir et dégager un large consensus en tenant compte des difficultés avant de sortir une date.
Alexandre Ferdinand Guendé, président du Conseil national de transition. Le Parlement provisoire de la République centrafricaine était joint par Félix Yepassis Zembrou. Au moins 50 soldats de l'Union africaine auraient été tués dans l'attaque de leur base mardi en Somalie. Estimation de l'AMISOM pour l'attaque de la base de Jalané, dont les Chebabs se sont un temps rendus maîtres. Au total, une centaine de soldats manqueraient à l'appel. En Guinée, la Cour constitutionnelle a officiellement bouclé mardi la réception des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 11 octobre. La Cour doit valider ces candidatures avant l'ouverture de la campagne. Zakaria Camara.
Ils sont 8 à avoir versé 800 millions de francs guinéens, une somme qui représente la caution fixée par la Commission électorale nationale indépendante. Chacun est passé devant le collège de médecins pour une visite médicale comme prévu par le code électoral. Si la Cour constitutionnelle valide tous les dossiers, Alpha Condé, président sortant, devrait compétir avec les anciens premiers ministres Cellou Ahmed Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté. Mais également dans le starting block, l'un de ses conseillers, Papa Koli Kourma, Fayami Limono et l'ancien ministre Georges Gandhi Tunkara Faragey. Une femme ferme la liste. Peu connue du grand public, Madame Marie-Madeleine Djoubaté est l'une des surprises de cette élection. L'autre surprise reste l'absence de Jean-Marie Doré, l'ancien premier ministre, n'est pas candidat à une élection pour la première fois depuis 1993. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Conflit au Soudan du Sud, Washington brandit la menace de sanctions à l'ONU contre les belligérants, accusés de violer le cessez-le-feu en vigueur en théorie depuis quelques jours. Dans un communiqué, le département d'État a condamné les derniers combats dans deux provinces du Soudan du Sud, exhortant toutes les parties à mettre fin immédiatement aux actes provocateurs et hostiles. Vendredi dernier, le Conseil avait adopté à l'unanimité une déclaration appelant à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan du Sud et avait brandi la menace de sanctions contre les belligérants qui violeraient l'accord de paix signé à Djouba. Afrique du Sud, deux Mozambicains ont été condamnés à 11 ans de prison chacun pour avoir braconné des rhinocéros dans le célèbre parc national Kruger en Afrique du Sud, a annoncé la police sud-africaine. Les deux hommes, âgés de 22 et 23 ans, ont été reconnus coupables de possession illégale d'armes et de munitions et d'entrée illégale dans le parc lundi par le tribunal de White River. Ils avaient été arrêtés le 27 octobre 2014 par des rangers du parc Kruger frontalier avec le Mozambique. L'homme qui a inspiré le film Blood Diamonds, les diamants du sang, soupçonné de trafic de diamants en Sierra Leone, va être extradé vers la Belgique, a annoncé la justice espagnole. Michel Desadler a fait l'objet d'une plainte déposée à Bruxelles en janvier 2011 par 5 anciens forçats des mines de diamants en Sierra Leone. L'homme d'affaires belgo-américain, accusé d'esclavage et de trafic de diamants pendant la guerre civile en Sierra Leone, va être extradé vers la Belgique. Il est âgé de 64 ans. Il avait été interpellé à l'aéroport de Malaga, dans le sud de l'Espagne, alors qu'il s'apprêtait à partir aux États-Unis, où il réside.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Près de 4500 réfugiés et migrants juste débarqués au Pirée près d'Athènes en Grèce étaient à pied d'œuvre aujourd'hui pour poursuivre leur odyssée vers le nord de l'Union européenne où un renforcement des contrôles frontaliers commençait à s'imposer. Jacques Aristide.
Ces nouveaux arrivants sur le continent sont syriens pour la plupart. Depuis le début de l'année, la Grèce a comptabilisé le chiffre record de 160 000 arrivées sur quelques 350 000 personnes au total qui ont tenté le passage de la Méditerranée. Les autorités grecques les laissent passer et emprunter la route des Balkans, généralement en direction de l'Allemagne, mettant au passage la Hongrie sous haute pression. Une centaine de migrants ont ainsi manifesté aujourd'hui devant la principale gare de Budapest, alors que la police empêchait 2000 d'entre eux de monter dans des trains pour l'Autriche et l'Allemagne. La fuite vers l'Europe a aussi fait de nouveaux morts. L'Organisation internationale pour les migrations a déjà comptabilisé 2643 personnes noyées en tentant de franchir la Méditerranée depuis le début de l'année. Par ailleurs, la liaison ferroviaire entre la France et l'Angleterre a été interrompue pendant des heures dans la nuit de mardi à mercredi après l'intrusion de migrants sur les voies de l'Eurostar. L'Allemagne a défendu la liberté de circulation dans l'UE tout en demandant à ses voisins de mieux contrôler les frontières. La mise en place d'une réponse européenne coordonnée doit être au centre d'entretien demain à Athènes entre les autorités grecques et la Commission européenne.
Recrudescence de la criminalité aux États-Unis, les statistiques sont à la hausse. On se demande pourquoi, Jean-Roger Bion.
Le New York Times affirme que plus de 30 villes à travers les États-Unis ont signalé un pic dans le nombre d'homicides cette année par rapport à la même période en 2014. 105 personnes ont été tuées cette année à Washington, D.C., alors qu'à la même période l'année dernière, l'on dénombrait 73 meurtres dans la capitale des États-Unis. Un nombre d'homicides à trois chiffres a également été constaté dans des villes comme Milwaukee, dans le Wisconsin, Saint-Louis, dans le Missouri et la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. La hausse inattendue du nombre de meurtres en 2015 après plusieurs années de baisse régulière a mis la pression sur les politiciens et les forces de l'ordre pour trouver des solutions à l'hécatombe. Certains disent que les policiers sont devenus moins agressifs à la suite des manifestations d'envergure nationale consécutives elles-mêmes à une série de décès d'Afro-Américains en garde à vue. Mais le Times affirme que de nombreux policiers de haut rang voient de plus en plus chez les jeunes des quartiers pauvres la volonté d'utiliser la violence pour régler des litiges ordinaires. Plus de 70 représentants de certaines des plus grandes villes aux États-Unis ont tenu un sommet d'urgence le mois dernier pour régler le problème. Le Times note toutefois que le taux global de criminalité reste loin en deçà des sommets observés à la fin des années 80 et au début des années 90.
La Russie menace les États-Unis de représailles suite à l'imposition de nouvelles sanctions contre Moscou en rapport avec la crise en Ukraine. Le gouvernement américain ne devrait pas s'imaginer qu'il peut continuer sur cette voie sans encourir des conséquences négatives, affirme un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Voilà pour pour les nouvelles. Restez branchés. Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg dans un instant.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.